Sermon 12. Par l'eau et l'esprit, qui est la sagesse de Dieu? Première épître aux Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 16. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Dans le paysage d'automne. Parce que le châtaignier est au bord de la rivière, c'est si pittoresque. S'il n'y a que la pleine lune qui se lève derrière le châtaignier, c'est complètement l'automne. Il y avait un châtaignier derrière la maison où je vivais et je me souviens de ces moments-là. Quand l'automne arrive, si vous montez sur la montagne avec une longue perche et secouez le châtaignier qui a mûri en premier, les bogues de châtaigne tombent. J'avais l'habitude de grimper à l'arbre, de le secouer et de ramasser les bogues de châtaigne tombées avec des pinces. Plus tard, si vous mettez les châtaignes épluchées sur le feu de briquette, elles rôtissent bien. En été, nous nagions dans l'eau de mer et en automne, nous cueillions et mangions des châtaignes et nous cueillions et mangions aussi les fruits du figuier juste derrière la chapelle et les oiseaux venaient les manger aussi. Si vous pêchez, un poisson vert, greenling d'environ cette taille est attrapé. Nous le coupons immédiatement en tranches pour en faire du poisson cru et nous le trempons profondément dans de la pâte de piment rouge vinaigré pour le manger. Tout le monde, vous devez bientôt retourner dans vos villes natales, n'est-ce pas ? Après le culte de ce dimanche, le 16, c'est Chuseok, la fête des moissons coréennes. Les songpyeon, gâteaux de riz traditionnels préparés en les cuisant à la vapeur dans une marmite avec des aiguilles de pain posées au fond. S'il vous plaît, ne les mangez pas tous tout seuls. Mais à votre retour, assurez-vous de les emballer dans un panier en bambou et de les apporter. J'espère que vous en apporterez beaucoup pour que nous puissions les partager et les manger ensemble. La méthode d'évangélisation de l'apôtre Paul était par la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans le chapitre 2 de 1 Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de la sagesse de Dieu et de la sagesse de l'homme. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 2. L'apôtre Paul était une personne qui avait étudié sous Gamaliel à cette époque. Il était un serviteur de Dieu qui était né de nouveau en croyant à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais regardons le verset 3. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » L'apôtre Paul était une personne qui avait des parties physiquement faibles. Les historiens disent qu'il avait une maladie des yeux. En regardant les épîtres de Paul, c'était au point qu'un frère sauvé devait les écrire en son nom. Il est donc rapporté qu'il était audacieux lorsqu'il écrivait des lettres, mais lorsqu'il rencontrait les saints, il les traitait avec un cœur humble. Paul était quelqu'un qui vivait avec la pensée que les gens pourraient le mépriser en regardant son apparence extérieure. Cependant, il était le Paul qui avait été désigné comme apôtre. Il était celui qui avait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Le ministère de l'apôtre Paul était un ministère avec lequel le Saint-Esprit était. Paul, en tant que personne qui croit à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, a témoigné de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit qu'il ne pouvait pas accomplir le ministère sans la puissance du Saint-Esprit. La sagesse humaine ne pouvait pas remplacer la puissance et la sagesse du Saint-Esprit. La prédication de l'évangile de Dieu ne pouvait être accomplie que par la puissance du Saint-Esprit. Dans son ministère, la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit œuvrait toujours de concert avec l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu ? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu ? La sagesse fait référence à la capacité d'atteindre son but avec les connaissances que l'on possède. C'est la sagesse de savoir par quel processus Dieu accomplit l'œuvre qu'il a ordonnée avant la fondation du monde pour notre salut et d'atteindre le but en le faisant. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Première épître aux Corinthiens chapitre 2 verset 8. La sagesse de Dieu dont il était question ici est la sagesse d'accomplir en Jésus-Christ l'œuvre de salut que Dieu a planifiée pour eux depuis le moment où il a créé l'univers et créé Adam et Ève avec la parole. Dieu le Père, afin de sauver l'humanité tombée dans le péché des péchés du monde avant la fondation du monde, a envoyé le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vers nous, l'a fait recevoir le baptême donné par Jean-Baptiste pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, l'a fait recevoir le jugement de tous les péchés sur la croix, et a achevé l'œuvre de sauver du péché ceux qui croient en ressuscitant d'entre les morts. La sagesse de Dieu le Père est qu'il a manifesté l'amour de Dieu en délivrant ceux qui croient des péchés et du jugement de toute l'humanité, et en faisant d'eux le peuple de Dieu par le ministère du baptême de son Fils Jésus-Christ et de l'effusion de sang sur la croix. C'est-à-dire que Dieu a déterminé cette œuvre de faire des pécheurs son peuple et a tout accompli au sein du ministère de Jésus-Christ. Accomplir une telle œuvre est la sagesse de Dieu. Nous pensons à la parole de l'évangile du salut reçu de Dieu. Comment un humain né avec le péché pourrait-il devenir une personne sauvée du péché ? Comment celui qui ne peut pas vivre sans commettre de péché pourrait-il devenir une personne sans péché ? Celui qui a fait cette œuvre est le ministère du salut accompli en union par Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est le don de Dieu que Jésus-Christ délivre ceux qui croient par le baptême qu'il a reçu de Jean, le sang de la croix, la mort et la résurrection. Jésus-Christ est le Sauveur qui a délivré les pécheurs des péchés du monde et du jugement du péché. Maintenant, nous sommes ceux qui sont nés de nouveau et qui sont devenus le peuple de Dieu par la foi, qui croient à la vérité de l'évangile du salut que le Dieu trinitaire a planifié et accompli pour nous. Lorsque Satan, le diable, a fait commettre le péché à Adam et Ève et que l'homme est devenu un pécheur en désobéissant au commandement de la parole de Dieu, Dieu a donné la parole de prophétie aux ancêtres de l'humanité. Dans la parole de Genèse, chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ainsi, Dieu a donné la parole de promesse qu'il enverrait Jésus-Christ comme la postérité de la femme pour éliminer proprement le péché dans le cœur en une seule fois. Cette œuvre était la promesse prophétique selon laquelle le Fils de Dieu le Père, Jésus-Christ, recevrait le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, recevrait le jugement du péché sur la croix et sauverait ceux qui croient en ressuscitant d'entre les morts. Dans les paroles de l'Ancien Testament, Dieu a établi la loi des sacrifices du tabernacle et a montré la voie du salut aux pécheurs. Dans la loi des sacrifices montrée dans l'Ancien Testament, il y avait une loi consistante à transmettre le péché du pécheur à l'offrande sacrificielle par l'imposition des mains. La loi des sacrifices du tabernacle était la loi du salut que Dieu a établie afin que l'humanité soit sauvée par le sacrifice de l'offrande sacrificielle au lieu d'avoir à mourir comme salaire du péché. C'est la sagesse du salut pour nous délivrer des péchés du monde. La différence entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Comment est la sagesse humaine ? Elle a des limites. La sagesse humaine n'est pas éternelle. L'homme a créé des doctrines théologiques, lui faisant répéter le cycle selon lequel, même si l'on est sauvé en croyant en Jésus, si l'on commet un péché, on doit le laver à nouveau par une prière de repentance. Ainsi, au sein de la chrétienté, cela a fait que les gens vivent toujours comme des pécheurs même après avoir cru en Jésus. Cependant, Dieu a envoyé Jean-Baptiste, le représentant de tous les hommes, dans ce monde pour donner le baptême au corps de Jésus, transférant ainsi les péchés du monde sur le corps de Jésus, le faisant payer le jugement du péché avec le sang de la croix, et par la résurrection d'entre les morts, il a permis à ceux qui croient d'obtenir l'effacement des péchés et la vie éternelle. C'est la sagesse de Dieu. C'était le dessein de Dieu que Jésus-Christ reçoive le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui en une seule fois, reçoive le jugement du péché sur la croix pour verser le sang précieux et ressuscite d'entre les morts pour permettre à ceux qui croient d'être sauvés et faire d'eux des enfants de Dieu. Par conséquent, même si les humains sont défaillants, s'ils croient au baptême que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a reçu de Jean et au sang de la croix, ils entrent sur le chemin pour être sauvés de tous les péchés et du jugement. Dieu a établi la loi du salut pour l'humanité afin de recevoir l'effacement des péchés par la foi qui croit au baptême et au sang que Jésus-Christ a reçu de Jean. C'est la sagesse de Dieu. Si nous croyons à la prédication de la croix dans nos cœurs, nous sommes sauvés. La prédication de la croix est le message de salut qui implique tous les processus par lesquels Jésus a sauvé l'humanité du péché. La prédication de la croix, lorsqu'elle est expliquée, est la parole de la nouvelle naissance qui sauve l'humanité du péché par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. La religion créée par l'homme ne peut pas éliminer le péché de l'homme, mais la prédication de la croix préparée par Dieu le Père est la vérité du salut selon laquelle Jésus, qui a été baptisé par Jean, a vu les péchés du monde transférés sur lui, a versé son sang sur la croix et est ressuscité d'entre les morts pour nous sauver, nous qui croyons, de tous les péchés. Seule la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité qui peut sauver les pécheurs du péché. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Le baptême que le Seigneur a reçu de Jean sur cette terre, sa mort sur la croix et sa résurrection sont l'évangile de vérité qui sauve les pécheurs du péché. Cette prédication de la croix est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu le Père a préparé longtemps à l'avance et c'était la parole de salut donnée à ceux qui croient. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Le Saint-Esprit est la parole de la vérité du salut connue seulement de la personne qui a reçu l'effacement des péchés en croyant à la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans son cœur. Cependant, il a dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Cela signifie que peu importe à quel point une personne est intelligente et brillante dans ce monde, une personne qui n'a pas rencontré la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui devient la prédication de la croix, ne peut pas la comprendre par elle-même. Cela signifie que la prédication de la croix, qui se trouve dans les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament données par Dieu à l'humanité, ne peut être rencontrée qu'au sein de la foi, qui croit en la parole de vérité de la nouvelle naissance, par la foi qui croit au baptême que Jésus a reçu de Jean et au sang de la croix. La parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui devient la prédication de la croix témoignée par l'apôtre Paul, est consignée dans les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament. De telles paroles de vérité ne se trouvent pas dans la philosophie mondaine et les livres de doctrine théologique, mais sont consignées uniquement dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas pu rencontrer cette vérité même dans la loi qu'il avait apprise dans le passé. Il n'a pu la rencontrer que dans la parole de l'Évangile selon laquelle Jésus-Christ est le Sauveur et pour le salut de l'humanité, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, a reçu le jugement du péché sur la croix et est ressuscité 3 jours après sa mort. Nous sommes devenus ceux qui, en croyant en ce chemin de l'élimination des péchés ouvert par Jésus, reçoivent l'effacement des péchés et, par la foi au Seigneur qui nous a permis d'obtenir la vie éternelle, obtiennent le salut de tous les péchés en une seule fois, vivent comme le peuple de Dieu et jouissent ensuite de la vie éternelle. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit devient notre but. L'apôtre Paul n'a pas prêché avec des doctrines créées par l'homme, mais a prêché uniquement avec la sagesse de Dieu. Par conséquent, Ceux qui ont entendu la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de la part de l'apôtre Paul ont entendu la prédication de la croix. La prédication de la croix est la parole concernant le baptême que Jésus a reçu de Jean et le sang de la croix. Et c'est la vérité pour recevoir l'effacement des péchés. Par conséquent, lorsque nous prêchons la prédication de la croix par la folie de la prédication, Dieu accorde le salut de l'élimination des péchés. Nous rendons maintenant grâces à Dieu en croyant que nous sommes sauvés de nos péchés et devenus des enfants de Dieu par la foi en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu. La prédication de la croix n'est pas un salut obtenu par les bonnes œuvres humaines ou la foi dans des doctrines théologiques, ni obtenu par l'intelligence humaine. C'est simplement le salut de la puissance de Dieu qui permet d'être sauvé uniquement en croyant dans le cœur à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui devient la prédication de la croix préparée par Dieu. Dieu est celui qui accorde maintenant un salut parfait à ceux qui croient à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile spirituel du salut que Dieu nous donne est la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et le don du salut donné à l'humanité est exactement cette parole de vérité. La prédication de la croix à laquelle nous devons croire est la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre foi est la foi qui croit à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit comme étant la vérité du salut. Ce qui plaît à Dieu, c'est que la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit soit prêchée au monde entier, afin que ceux qui reçoivent l'effacement des péchés dans leur cœur vivent le reste de leur vie comme le peuple de Dieu et entrent dans le royaume du Seigneur deviennent nombreux. Il y a un dicton qui dit qu'un peuple sans rêve périra. Même en tant que chrétiens, nous devons être des personnes qui ont la parole de preuve pour notre propre foi. Une personne qui ne croit pas et ne s'accroche pas à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu avec son cœur est comme quelqu'un qui est spirituellement tué. Tout le monde, vous devez savoir que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la prédication même de la croix. Et en croyant cela, vous devez vivre avec l'assurance du salut. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et vivre dans l'assurance du salut par la foi. Ce n'est qu'alors que mon cœur et vos cœurs gagneront en force, et après avoir mené la vie de foi que Dieu désire, nous entrerons joyeusement dans le royaume du Seigneur. Nous devons vivre en fixant notre but avec la foi qui reçoit le salut.